Chapitre 13. Pendant 2 jours, le lundi 8 et le mardi 9 octobre, les quatre policiers ne firent que se croiser, chacun menant l'enquête sur Blervac qui lui incombait. Le mercredi matin, ils se retrouvèrent dans le bureau du commissaire Zonkin qui désirait entendre de la bouche de chacun ce qu'il avait trouvé. Au préalable, il les informa des résultats du laboratoire. On avait trouvé dans la chambre d'hôtel de multiples empreintes qui, coïncidant avec celle du cadavre Dubois, avait permis d'identifier officiellement celui-ci comme Jean-Pierre Blervac. Puis, prenant sur son bureau plusieurs feuillets, il se lança dans la lecture de considérations très techniques sur la nature des blessures au crâne et à la face de Blervac, d'où il ressortait que celui-ci avait été frappé avec un marteau ordinaire, dont l'agresseur avait utilisé les deux bouts, le gros et le plus petit allongé. Ce qui explique la différence de nature des traumatismes et blablabla et blablabla. Je ne vous imposerai pas la totalité du rapport du docteur Fruleux comme d'habitude exhaustif et indigeste pour les profanes que nous sommes, dit-il en reposant d'un air dédaigneux et théâtral les feuilles sur le bureau. Bref, ajouta-t-il avec une ironie ostensible, les experts nous font savoir que le mort est Blervac et qu'on l'a défiguré à coups de marteau, ce que nous avions déjà parfaitement découvert par nous-mêmes. Je crois donc qu'il ne faut compter que sur notre matière grise pour résoudre cette affaire, et c'est pourquoi j'attends avec impatience que vous me communiquiez le résultat de vos investigations. Sur ce, il se renversa dans son fauteuil pivotant, les mains rassemblées sous son menton, et attendit avec un sourire satisfait. En arrivant, Preux avait demandé aux autres de pouvoir parler en dernier, en leur expliquant qu'il avait une explication globale, mais qu'elle pouvait être affirmée par ce qu'ils avaient trouvé. Terminer le tour de table lui permettrait donc de voir si elle restait valable. Les autres avaient acquiescé. C'est pourquoi, après avoir consulté Boulanger et le Mailleux du regard, Monin prit la parole. Elle rappela en préambule qu'elle avait en charge la période de détention de Blervac. Celui-ci avait passé les 10 premières années de sa peine à la prison de Fresnes, puis avait été transféré pour les 4 dernières à celle de Longuenesse. Elle avait eu un entretien avec les deux directeurs. Ceux-ci lui avaient dit la même chose. Blervac s'était bien comporté, au point d'obtenir une substantielle réduction de peine. Pas de bagarre ni de trafic de drogue. Pour autant, les gardiens ne gardaient pas de lui une image très positive. Tout le temps de sa peine, il s'était montré taciturne et renfermé, ne nouant aucune véritable amitié avec ses codétenus. Quant aux visites, il n'avait reçu que celles de sa sœur, et encore. Il semblait l'avoir dissuadé de venir car les visites de cette dernière s'étaient rapidement espacées, puis avaient cessé. En outre, il n'écrivait pratiquement pas, et en tout cas jamais à Barbara Roussel, qui semblait totalement absente de cette période de la vie de Blervac. À un moment, poursuivit Monin, j'ai cru toucher le jackpot. En épluchant les documents administratifs de la prison de Longuenesse, je suis tombé sur le nom de Georgette Lecœur. Celle-ci y est inscrite comme visiteuse pénitentiaire. Cependant, le soufflet est vite retombé quand le directeur m'a affirmé que Blervac n'a jamais voulu rencontrer de visiteuse. Effectivement, j'ai vérifié la liste des détenus qu'elle a rencontrés à Longuenesse. Le nom de Blervac n'y figurait pas. Puis Boulanger prit le relais. Il avait tenté de suivre la piste de Blervac à sa sortie de prison 2 ans auparavant. Celui-ci avait d'abord travaillé à Douai dans une entreprise d'économie solidaire qui cherchait à réinsérer les ex-détenus en leur confiant des petits boulots chez les particuliers, ce que les entreprises refusent de faire. Il y était resté 6 mois, à la suite de quoi un des clients de l'entreprise de réinsertion l'avait embauché comme peintre dans sa propre société située dans la même ville. D'après l'employeur, Blervac travaillait bien, quoique sans zèle particulier. Et puis au bout d'un an, il avait donné sa démission pour convenance personnelle. Après bien des recherches, Boulanger avait retrouvé sa trace à Lille, où il vivait du RMI dans un squat. Interrogé, un des occupants avait confié que Blervac, tout en restant très secret sur ses activités, était constamment fébrile. Il marmonnait tout seul, consultait sans arrêt l'annuaire téléphonique du Nord, s'était mis à acheter le journal. Et pas pour les petites annonces, assurait l'homme. Et puis il y avait 3 semaines, il avait quitté le squat, sans explication ni au revoir. Boulanger avait montré une photo de Barbara aussi bien aux employeurs de Blervac qu'aux membres du squat. Ni le visage ni le nom de la jeune femme n'avaient éveillé d'écho ou provoqué des réactions. Si Blervac la connaissait, il n'en avait jamais rien dit. Ce fut ensuite au tour de Le Mailleux. Il avait repris la liste des participants à la guerre d'une partie des Tilliers. Il s'était rendu chez les invités et leur avait montré la photo de Blervac. La plupart n'en avaient aucun souvenir. D'autres se rappelèrent qu'il était là sans pouvoir dire autre chose, sinon qu'ils l'avaient vu dans le jardin. Au demeurant, Le Mailleux en soupçonnait quelques-uns de vouloir jouer à peu de frais les intéressants. Parmi les principaux protagonistes de l'affaire Roussel, seul Georges Callot l'avait reconnu. Il avait raconté qu'à un moment où il était seul, très peu de temps après s'être disputé avec Barbara, il s'était senti observé, s'était retourné et avait aperçu Blervac qui le fixait bizarrement. Quand leurs regards s'étaient croisés, celui-ci avait tourné le dos. Callot avait ajouté ne pas y avoir prêté d'attention particulière car, après son altercation avec Barbara, plusieurs invités avaient agi de cette façon. Monin intervint. Callot a déjà menti. S'il avoue avoir remarqué Blervac, n'est-ce pas pour cacher quelque chose de plus grave comme une discussion avec lui? Les autres restaient perplexes. Preux prit alors la parole. Callot dit sans doute la vérité. De toute façon, cela n'a pas d'importance, car je crois connaître l'identité de la personne qui a causé, sans le vouloir, la mort de Barbara Roussel, et qui a ensuite assassiné Jean-Pierre Blervac. Quatre perdus étonnés se tournèrent vers lui. Mais auparavant, voici les recherches que j'ai effectuées. Il leur rendit compte du procès de Blervac et de ce qu'en avait dit la sœur de ce dernier ainsi que Robert Collier. Quand il eut terminé, il eut dans les regards fixés sur lui la même interrogation muette. Vous ne voyez toujours pas? Peut-être alors suis-je dans l'erreur. Pourtant tout coïncide et ce que je viens d'entendre ne contredit pas ma théorie, ajouta-t-il d'un air pensif. Et si vous nous l'exposiez, cette théorie, suggéra Zonnequin. Oui, reprit Preux, qui semblait émerger d'un rêve. Eh bien, voici les étapes de mon raisonnement. Après la mort de Barbara, j'ai été frappé, comme vous, par les marques de sympathie qui revenaient dans tous les témoignages à son sujet. Comme quelqu'un l'a dit, elle ne semblait pas avoir d'ennemis. Gentillier l'aimait en secret. Sa sœur Rebecca jouait le rôle de deuxième mère pour elle. Georges Callot était plus attaché à elle qu'il ne le disait. Georgette Lecœur, qui aurait pu être irritée de sa maladresse, voire de son incompétence, éprouvait de la compassion pour elle. Mélanie Fougaille, qui aurait eu toutes les raisons de lui en vouloir puisque Barbara l'avait supplantée auprès de Callot, était devenue sa meilleure amie. Quant à Damien Restoux, il avait le coup de foudre pour elle. Bref, il y avait un tel consensus à propos de Barbara que je n'imaginais aucune de ces personnes lui vouloir et, a fortiori, lui faire du mal. De plus, toutes me donnaient l'impression d'être sensées. Si l'une d'entre elles avait voulu supprimer Barbara, je pense qu'elle aurait trouvé bien des occasions plus propices que cette réception où, compte tenu du nombre de personnes et de la configuration des lieux, un meurtre sans témoin semblait difficilement imaginable. Or, ce risque insensé, quelqu'un l'a pris, et grâce à une chance insolente, est passé à travers les mailles du filet. En étudiant les circonstances de l'assassinat, et notamment le fait que le départ de Barbara pour le petit salon a été totalement impromptu, je me suis dit que le meurtre avait dû être commis par quelqu'un qui ne mesurait pas le risque d'être pris, quelqu'un qui avait en quelque sorte le jugement faussé, par conséquent aucun de nos suspects. C'est pourquoi la découverte de la mort de Blervac et son identification possible comme l'assassin de Barbara paraissait tout résoudre. Nous avions enfin quelqu'un qui haïssait Barbara, comme le montrait l'inscription salope sous la photo de cette dernière. Pourtant, l'affaire demeurait obscure. Nous n'arrivions pas à établir le lien qui unissait Barbara à Blervac, et surtout, la mort cruelle de ce dernier ne faisait que compliquer le problème et laisser un assassin en liberté. Comme vous, je ressassais les données du problème avec l'impression que dans cette affaire, quelque chose clochait. Quand c'est le cas dans une enquête, ça signifie en général qu'on se trompe de suspect. On essaie d'imputer le crime à un innocent et, de ce fait, les pièces du puzzle s'emboîtent mal. J'ai donc passé une fois de plus tous les suspects possibles en revue. Tous ceux dont j'ai cité le nom tout à l'heure, mais je ne trouvais rien de convaincant. Je pataugeais lorsque dimanche au Touquet, une intuition m'est venue. Nous ne trouvions pas parce que nous n'envisagions pas l'affaire sous le bon angle. Il s'arrêta un instant, car il avait la gorge sèche à force de parler. Qu'entendez-vous par là? Demanda vivement Zonnequin, en faisant en l'occurrence le porte-parole de la curiosité générale. Après avoir dégluti plusieurs fois, Preux reprit. J'ai essayé d'adopter un autre point de vue. Au lieu de changer d'assassin, j'ai changé de victime. En clair, je me suis demandé si l'assassin ne s'était pas trompé de victime. Je me suis rappelé l'étonnante ressemblance entre les deux sœurs, soulignée maintes fois. Et si c'était Rebecca qu'on avait voulu assassiner? L'entrée en scène de Blervac ne contredisait pas cette hypothèse, au contraire. En effet, pour confondre les deux sœurs, qui n'étaient quand même pas des jumelles, le meurtrier ne devait pas être un familier de la Villa Louise, et même il ne devait pas avoir vu Rebecca depuis longtemps. Or, Blervac avait passé 14 ans en prison. Le nœud de l'affaire se situait donc dans le passé, avant la condamnation de Blervac. Rebecca avait alors 20 ans, soit un an de plus que ce dernier, et il était plus vraisemblable qu'elle ait pu le fréquenter que sa sœur, qui n'avait que 14 ans à l'époque. Quant à Blervac, s'il avait gardé en mémoire lors de son départ en prison l'image de Rebecca, après 14 ans et même 16, si l'on compte les 2 années après sa sortie, il devait avoir en tête désormais plutôt l'image de Barbara, ce qui explique son erreur lors du meurtre. Admettons qu'il ait confondu les visages des deux sœurs, dit Molin, mais il ne s'est pas trompé sur les identités, puisqu'il écrit nommément sous la photo B. Roussel. Justement, c'est ce qui nous a confortés dans notre erreur. B. Roussel, c'est Rebecca Tillier. À l'époque, celle-ci portait encore son nom de jeune fille, Roussel. Quant au B, c'est l'initiale de Becky, qui en Angleterre et aux États-Unis est le diminutif de courant de Rebecca. Il y eut un long silence que rompit Boulanger. Alors, l'assassin de Blervac, ce serait Rebecca. Oui. Et maintenant, voici comment je vois l'affaire dans son ensemble. Il y a 16 ans, pour la 5e année consécutive, Blervac passe le mois d'août à Sainte-Cécile chez sa tante. Il a 19 ans, est plutôt beau garçon et plaît aux filles, mais il est timide et influençable. Il rencontre Rebecca Roussel qui a 20 ans. Comment sais-tu qu'elle était à Sainte-Cécile à cette époque? Demanda le Mailleux. Dimanche en fin d'après-midi, j'ai appelé tous les protagonistes de l'affaire Roussel pour leur demander s'ils avaient déjà séjourné dans cette ville. Chez les Tillier, Rebecca était sortie, mais d'après son mari qui m'a répondu, elle y a campé plusieurs étés dans sa jeunesse. D'accord, continuez, dit Zonnequin, qui, comme les autres, était suspendu aux lèvres de preux. Comme vous l'avez constaté, Rebecca est fort jolie. À l'époque, elle devait l'être au moins autant. Blervac a le coup de foudre pour elle. Il en est mordu au point de vouloir matérialiser son amour par un tatouage sur l'omoplate. De son côté, elle ne doit pas être insensible non plus à ce bel Apollon. Quoi qu'il en soit de ses sentiments réels pour lui, je crois que très vite, elle l'a dominé. Elle a son BEP de dactylo, lui travaille. Lui a raté son bac technique. Elle est décidée, lui manque d'assurance. En résumé, elle est plus forte que lui, plus intelligente. Sur ce dernier point, ayez en tête qu'au procès, l'avocat de la défense a essayé de jouer sur le QI limité de Blervac pour atténuer sa peine. Un jour, pour l'éprouver ou par cupidité, ce sera à déterminer, elle lui demande de dérober un ou des bijoux chez sa tante. On n'a pas insisté lors du procès sur le fait qu'il n'a pas cherché à prendre de l'argent liquide, alors qu'il devait y en avoir. Je suppose que le vol a été suffisamment avéré pour qu'on s'intéresse à la nature de ce que Blervac voulait dérober. Pour ma part, c'est ce qui m'a fait penser à une femme quand Robert Collier a évoqué devant moi l'hypothèse d'une complicité. Bref, après, j'imagine bien des tergiversations, car Blervac, au fond, aime sa tante, il se décide pour les beaux yeux de sa belle. Le reste, vous le connaissez. Il est surpris, s'affole, perd la tête et la tue. Ensuite, il est resté prostré près de la victime, regrettant déjà son geste, en mesurant peut-être l'horreur. Je présume que Rebecca devait l'attendre pas très loin et que, lorsqu'elle a vu les voisins arriver et puis la police, elle s'est éclipsée discrètement. En tout cas, Blervac est arrêté et constate que sa complice le laisse se débrouiller. Zonnequin l'interrompit. Si ça s'est passé ainsi, pourquoi ne l'a-t-il pas dénoncé? On en est réduit à des conjectures. Je pense qu'il était sous son emprise à un tel point que, pendant un laps de temps assez long, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il a cru en elle et pensé qu'elle parlerait ou même le délivrerait. Et puis, même avec son intelligence limitée, il a fini par comprendre qu'elle l'avait laissé tomber. Je suppose que la haine qu'il a éprouvée pour elle a dû être à la mesure de l'amour qu'il lui portait et de la déception qu'elle lui avait causée. C'est alors qu'il a pris la décision de régler ses problèmes seul, comme il l'a avoué un jour à sa sœur. Pendant ces 14 années de détention, il remâche sa rancœur. Au demeurant, je ne suis pas loin de croire que c'est cette haine froide contre Rebecca et la perspective de se venger d'elle qui l'aide à tenir en prison. Quand il en sort, il se met aussitôt à sa recherche. Entre-temps, celle-ci, ambitieuse, est partie à Lille où elle est devenue l'honorable Madame Tillier. Elle a 2 enfants, une vie bourgeoise. Elle a oublié ou tente d'oublier cet épisode peu reluisant de sa jeunesse. Blervac, revenu dans la région, a beau chercher. Il ne l'aurait sans doute pas retrouvé, ne serait-ce qu'à cause du changement de nom, si, à l'occasion des 70 ans de l'imprimerie, n'était paru un certain nombre d'articles et de photos. Sur l'une d'elles, Blervac, qui doit éplucher la presse régionale, croit reconnaître Rebecca. Mais trompé par l'image figée qu'il cultive de celle-ci dans son rêve de vengeance, il ne s'aperçoit pas qu'il contemple en fait Barbara. À la fois heureux d'avoir retrouvé son ancienne complice et furieux de découvrir qu'elle est mariée, il découpe la photo et trouve un premier exutoire à sa haine en inscrivant en dessous le commentaire injurieux qui nous a trompés. Mais ce n'est qu'un préambule. L'article parlant des Tilly à Lambersart lui permet, en consultant simplement un annuaire, de retrouver les coordonnées de la Villa Louise, qu'il note consciencieusement sur la page du journal qu'il déchire. Le soir même, il se risque à téléphoner. Qu'espère-t-il? Désire-t-il lui faire peur ou veut-il la faire chanter? Je ne suis pas sûr en tout cas qu'il ait à cet instant déjà le projet de l'assassiner. Quoi qu'il en soit, il tombe sur Barbara en train de discuter avec Jean Tillier. Bien évidemment, celle-ci ne comprend rien aux reproches et aux menaces de Blervac, et d'autant moins que ce dernier parle par allusion. En particulier, le pseudonyme de Claude Gauvin n'évoque rien pour elle. Pour nous aussi, il reste nébuleux, fit remarquer Zannequin en fronçant le sourcil. Je pense, en considérant les deux livres trouvés dans la chambre d'hôtel de Blervac, que Claude pourrait renvoyer à l'empereur romain du même nom, et Gauvin au célèbre chevalier de la Table Ronde. Il doit s'agir d'un code entre Rebecca et Blervac, quand ils étaient ensemble. Toujours est-il, ajouta Preux, reprenant le cours de son récit, que Barbara, au bout d'un moment, est persuadée d'avoir affaire à un plaisantin ou à un fou, et raccroche. Blervac, de son côté, est outré d'avoir été traité si cavalièrement. Mettez-vous à sa place. Il attendait peut-être des excuses, à tout le moins une explication. Dorénavant, il est convaincu que Becky se moque de lui et l'a rayé de sa mémoire. Et dire que si c'était Tillier qui avait décroché, le drame aurait pu être évité, soupira Monin. Je me suis fait aussi cette réflexion, reprit Preux en lui jetant un long regard. Mais en définitive, je ne suis pas sûr que cela aurait changé grand-chose. Tilly aurait eu la même réaction que Barbara, Blervac la même frustration, qui l'aurait amené à la même conclusion, s'inviter le dimanche à la garden party pour une franche explication avec sa béquille. Et s'il était tombé sur Rebecca? Demanda Zannequin. Preux eut un sourire navré. J'aimerais vous dire que les choses auraient tourné autrement, mais là encore, j'ai des doutes. Rebecca, surprise, aurait sans doute feint de ne pas le reconnaître ou aurait tergiversé, le temps de réfléchir à l'attitude à prendre. Dans les deux cas, je crains fort que Blervac ne soit venu le dimanche. De toute façon, on ne refera pas l'histoire, conclut philosophiquement Duncan. Tous ces et si ne serviront qu'à nous torturer davantage. Allez-y, poursuivez, poursuivit-il à l'adresse de Preux. Vous en étiez à la colère de Blervac après le coup de fil. Oui. Comme vous vous en doutez, celui-ci décide de se rendre à la réception des Tilliers. Il entre sans doute au plus fort de la cohue, quand les deux préposés au badge ne contrôlent plus la liste des invités. Donne le nom de Claude Gauvin et se met en quête de Barbara qu'il prend pour sa béquille. La vraie Rebecca, quant à elle, tout en faisant des amabilités aux principaux invités de son mari, surveille du coin de l'œil si tout va bien. Soudain, elle voit Blervac. La surprise est totale. Imaginez la terreur qu'elle a dû éprouver en voyant d'un seul coup surgir ce spectre d'un passé qu'elle tente d'occulter depuis tant d'années. A-t-elle un vrai malaise ou le feint-elle? Je ne saurais le dire. Toujours est-il qu'elle estime devoir s'éclipser. Elle évitera ainsi une confrontation pénible et aura le temps de trouver une parade pour se débarrasser de lui. Pour faire passer son absence, elle invoque un début d'insolation. Sans le savoir, elle est en train de provoquer la perte de sa sœur. Blervac repère celle-ci, reconnaît en elle la fille du journal, sa béquille. Il la guette, et sans doute témoin de sa dispute avec Callot. Quand elle part vers la maison, il la suit et entre derrière elle dans le salon. La suite, nous ne pouvons que l'imaginer, les deux protagonistes étant décédés. Il lui parle, essaie de se faire reconnaître d'elle. Elle n'y comprend rien, lui ordonne de sortir. Il se sent méprisé, humilié. 16 années de ressentiment remontent à la surface. Comme avec sa tante, il perd tout contrôle de lui-même, sort le couteau qu'à mon avis il porte sur lui depuis sa sortie de prison, et lui porte un coup mortel. Le mailleux intervient. Je suppose que c'est en tentant de se défendre ou en tombant qu'elle a dû lui arracher son badge. Oui, répondit Preux. Et cette fois, à la différence du meurtre de sa tante, Blervac ne traîne pas. La scène n'a duré que quelques secondes. Il sort de la pièce, quitte la Villa Louise. Et Mélanie Fougaille, 15 minutes plus tard, découvre le corps et donne l'alerte, acheva Zannequin. Tout ça semble se tenir. Mais qu'en est-il de l'élimination de Blervac? Sur ce point, j'en suis réduit à des suppositions, avoua Preux. Lorsqu'elle apprend l'assassinat de sa sœur, Rebecca devine tout de suite qui en est l'auteur. Je ne suis pas certain, par contre, qu'elle ait compris l'effroyable méprise de Blervac. À mon sens, elle doit imputer le meurtre à une volonté délibérée de vengeance sur une parente. Elle aimait sincèrement sa sœur. L'acte de Blervac la révolte. Elle n'a qu'une envie, lui faire payer ça très cher. Ce faisant, du même coup, elle assurera sa propre sécurité. De son côté, Blervac, en lisant la presse les jours suivants, se rend compte enfin de son erreur. Il est sans doute déstabilisé un moment, mais endurci comme il l'est par toutes ces années de prison, il ne doit pas ressentir de regrets excessifs. Il voit surtout qu'il a raté son coup. On est peut-être vexé. Bientôt s'impose une évidence. Il doit recommencer et donc la voir au plus vite. Il la recontacte mardi ou mercredi. Elle, qui n'attendait que ça, lui fixe un rendez-vous discret au bois. Ce jour-là, mercredi, elle informe son mari qu'elle part faire des courses en ville, se gare dans le centre, fait quelques emplettes avec une amie qui lui servira d'alibi, puis continue seule. En réalité, elle charge ses achats dans la voiture, part à pied vers le bois. Elle est munie d'un marteau ordinaire qu'elle a dû prendre dans la caisse à outils du ménage. Sur leur rencontre, je ne puis là encore que formuler des hypothèses. Reprenant son ancien ascendant sur lui, elle doit, sinon le mettre en confiance, au moins calmer sa colère par de paroles lénifiantes. Blervac lui en aurait laissé le temps, demanda Monin d'un air sceptique. J'en suis presque certain. On peut penser que Blervac, même s'il a l'intention de la tuer, veut auparavant obtenir des explications, des excuses, voire des supplications. Par ailleurs, il ne se méfie pas d'elle. Il a son couteau qu'il a dû sortir pour l'impressionner. Ses deux précédentes victimes ne lui ont opposé quasiment aucune résistance. Il croit la tenir à sa merci. En somme, il a présumé de sa force, dit le Mailleux. Ou sous-estimé son interlocutrice, acheva Preux. Je crois qu'il y a eu un peu des deux, en définitive. À un moment donné, par ruse, elle le fait se retourner ou se pencher et lui assène un premier coup de marteau. Il s'écroule. Est-il déjà mort? Je ne le sais. En tout cas, elle se déchaîne, déversant sa colère et la haine accumulées depuis 3 jours. Elle lui enfonce le crâne, puis le défigure en utilisant le bout pointu. Pendant le meurtre, elle a pris soin de ne pas le toucher. Elle emporte le marteau, ainsi que le couteau de Blervac. S'en débarrasse, peut-être dans la dolle. Retourne chercher sa voiture et rentre chez elle. Et voilà, conclut-il simplement. Maintenant, vous en êtes au même point que moi. Eh bien, tout ça me semble fort intéressant et surtout parfaitement cohérent, dit Zannequin après un long silence. Vous avez fait admirablement fonctionner vos petites cellules grises, d'une façon que n'aurait pas renié Hercule Poirot, ajouta-t-il en souriant. Une seule chose me chiffonne. Où sont les preuves? Comme vous l'avez souligné, Rebecca s'est débarrassée, Dieu sait où, des armes des deux homicides. Et personne ne semble l'avoir vue sur le lieu du meurtre. J'ai bien conscience que c'est là que le bât blesse, dit Preux avec une grimace éloquente. Quand les pièces du puzzle se sont mises définitivement en place hier, je cherchais vainement des preuves tangibles. Boulanger prit la parole. Je ne vois que la solution habituelle dans ce cas de figure, la convoquer ici, lui dévoiler ce que l'on sait, faire ainsi pression sur elle, en espérant qu'elle craque et avoue tout. Vu le sang-froid qu'elle a montré dans le meurtre de Blervac, j'en doute, dit le Mailleux. À y regarder de près, elle a eu surtout beaucoup de chance, fit observer Preux. Elle aurait pu être remarquée sur la route du bois. Quand je l'ai interrogée lundi, j'ai senti qu'elle était vraiment affectée par la mort de sa sœur, dont elle se sent peut-être en partie responsable. Je crois que le rendez-vous de mercredi, qui sent quand même l'improvisation, est davantage dicté par la volonté farouche de venger sa sœur que par le souci de se protéger, elle. C'est pourquoi je ne suis pas sûr qu'elle fasse preuve de beaucoup de résistance si on lui montre qu'on sait tout. Effectivement, je pense qu'on peut faire le pari qu'un ressort s'est brisé en elle et qu'elle cherche à se soulager en avouant, conclut Zannequin. De toute façon, on n'a pas le choix. L'intuition du commissaire était bonne. Rebecca Tillier, convoquée dans l'après-midi, avoua presque immédiatement. Elle fit une longue confession qui coïncidait en grande partie avec ce qu'avait exposé Preux. Seuls différaient quelques points de détail que celui-ci ne pouvait connaître. Ainsi le patronyme de Claude Gauvin. Blervac avait raté 2 fois son bac technologique, mais il avait une passion, l'histoire. Quand Rebecca le brocardait sur sa timidité, il lui disait en riant « C'est mon côté Claude », faisant référence à l'empereur du même nom qui, chez Suétone et d'autres écrivains latins, est dépeint ainsi. Il ajoutait aussitôt « Mais j'ai aussi un côté Gauvin ». Et devant son ignorance, il lui avait expliqué la première fois qui était Gauvin, l'un des chevaliers de la table ronde, parangon de bravoure. Bien évidemment, elle n'accepta pas d'être présentée comme l'instigatrice du vol de chez la tante. Selon elle, c'est Blervac qui en avait eu l'idée, pour l'épater. Preux et Boulanger, qui recueillaient sa déposition, ne furent pas convaincus par ce plaidoyer pro domo, que la mort de Blervac ne permettait pas de contester. Mais ce n'était somme toute qu'un problème entre elle et sa conscience, puisque sur l'essentiel, c'est-à-dire le meurtre de Blervac, elle reconnaissait tout. Au demeurant, elle ne manifesta aucun regret pour la façon dont elle s'était acharnée sur celui-ci. Elle avait véritablement voulu l'anéantir, ce salaud qui avait doublement saccagé sa vie, d'abord en venant lui rappeler un passé honni, puis en tuant sa sœur. Elle avoua tout cela d'une voix atone, comme si la mort de Barbara ne justifiait plus tous ses efforts de respectabilité. Elle ne fut pas plus tendre pour Gentilier, le traitant d'être insipide et complexé, et avouant crûment qu'elle ne l'avait épousé que dans une perspective d'ascension sociale. Même la perspective d'être séparée de ses enfants ne sembla pas l'émouvoir particulièrement. Quand les deux policiers la quittèrent, pour qu'elle satisfasse aux formalités anthropométriques, son visage était fermé et totalement inexpressif. Quelques jours plus tard, Frédéric Preux et Claire Bouvier étaient en train de terminer leur repas dans une taverne flamande réputée du Vieux-Lille. Durant une bonne partie de la soirée, ils avaient parlé de l'affaire Roussel. Une fois celle-ci bouclée, Preux avait tenu sa promesse en communiquant les principaux points à Claire, laquelle avait publié un article fouillé qui lui avait valu les félicitations du rédacteur en chef. Pendant longtemps, dit-elle, j'ai cru que Callot était le meurtrier. Nous l'avons tous cru, sans doute parce que nous le voulions tous. Callot était antipathique et faisait un coupable idéal. Claire resta silencieuse un moment, semblant méditer ses paroles. Et Rebecca, finit-elle par demander, comment vit-elle son inculpation? D'après les dernières informations que j'ai eues, après ses aveux circonstanciés, elle s'est murée dans le silence. Elle ne veut voir personne et semble indifférente à tout. En somme, elle se comporte comme Lervac il y a 16 ans. Oui, cette similitude de réaction est étonnante car elles ne se ressemblaient pas. Finalement, elles se sont détruites mutuellement. À l'époque, elle l'a brisé en le poussant à commettre l'irréparable et en le laissant aller seul en prison. Aujourd'hui, au-delà de la mort, il lui rend l'appareil. C'est vrai, mais dans cette affaire, une innocente a payé. Brusquement, Preux revit le visage exsangue de Barbara sur le sol du petit salon. Claire avait la même image en tête. Un long moment, elles restèrent perdues dans de sombres pensées, puis après un frisson, la jeune fille se secoua. Brrr, c'est sinistre. Finalement, je n'aime pas beaucoup votre métier. Je n'aime pas non plus beaucoup les journalistes, répondit Preux du tac au tac. Et comme Claire fronçait les sourcils, se préparant à défendre sa profession, il ajouta avec un sourire en coin. Disons que je ne les aimais pas avant de vous rencontrer. Sa protestation se changea en un sourire craquant, et Claire fut sous le charme. Dites donc, Hercule Poirot, vous qui êtes le roi de la déduction, savez-vous où j'ai l'intention de vous emmener en sortant d'ici? J'ai bien une idée, mais je préfère pour le moment la garder pour moi. En tout cas, comptez sur moi pour me livrer à une enquête approfondie. Quelques minutes plus tard, ils sortaient main dans la main. Fin. Emmanuel VI, Lille, décembre 2002.